Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican.
La réconciliation et le dialogue en RDC. Benoît XVI a lancé un appel à la paix dans la région du Nord Kivu en proie à un conflit. Lors de l'audience générale, il est aussi revenu sur le thème de l'obéissance à la foi. Après 3 jours d'études et de débats, l'assemblée plénière du Conseil pontifical Justice et Paix s'est achevée ce mercredi à Rome. Nous avons rencontré Michel Candessus, ex-directeur du FMI et qui a participé à ces travaux. Le Sénat français a adopté dans la nuit de mardi à mercredi un projet de loi autorisant la recherche sur l'embryon et les cellules souches. Un projet de loi éthiquement inacceptable pour le président de la Fondation Jérôme Lejeune. Bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican. Réconciliation et dialogue. Benoît XVI a lancé un appel vibrant pour la paix dans l'Est de la RDC lors de l'audience générale du mercredi. On sait le pape et l'église congolaise très inquiets de la tournure que prennent les événements dans l'Est de ce pays. Le dimanche 30 septembre, Benoît XVI avait déjà exprimé sa préoccupation pour la situation qui se créait en RDC. Ce mercredi, il a également appelé la communauté internationale à subvenir aux besoins des populations. On l'écoute.
Continuano ad arrivare preoccupanti notizie.
De graves nouvelles continuent d'arriver quant à la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui depuis des mois est devenue le théâtre d'affrontements armés et de violences. Une grande partie de la population est privée des biens de première nécessité et des milliers d'habitants ont été contraints d'abandonner leur propre maison pour trouver un refuge ailleurs.
Je renouvelle mon appel au dialogue et à la réconciliation et je demande à la communauté internationale de se mobiliser pour subvenir aux besoins de la population.
Ce mercredi, le pape a aussi poursuivi son cycle de catéchèses devant les 4000 personnes venues l'écouter dans la salle Paul VI. Le pape s'est surtout interrogé sur ce qu'est l'acte de la foi et ensuite l'obéissance de la foi qui n'est pas une contrainte mais bien un abandon pour se laisser saisir par la vérité de Dieu. Voici comment le pape a développé cette réflexion en s'adressant aux fidèles francophones.
Paul contemple Dieu qui nous a choisis avant la création du monde pour être ses fils adoptifs. Dans son Fils unique, Jésus-Christ. L'homme et la femme ne sont pas le fruit du hasard, mais du dessein de bienveillance de Dieu, du mystère de sa volonté. Le but du dessein divin est de réunir toutes choses sous un seul chef, le Christ, qui seul compte vivre à la plénitude voulue par son Père. Dieu révèle son amour en parlant aux hommes comme à des amis, en vivant parmi eux et en les introduisant dans sa communion.
Une audience générale à laquelle ont assisté les membres de la Fédération italienne des boulangers. Ils ont promis de donner 2000 panettones à la prison romaine de Rebibbia, un cadeau pour les prisonniers avant le temps de Noël. Il y a un an, le pape se rendait justement dans cette prison. Il avait rappelé alors que partout où se trouve un affamé, un étranger, un malade, un prisonnier, se trouve le Christ lui-même qui attend notre visite et notre aide. Le temps de Noël arrive justement à grands pas et le Vatican s'apprête à recevoir son traditionnel arbre de Noël. Il s'agit cette année d'un sapin blanc donné au pape par la communauté de Pescopenataro, communauté qui se trouve dans la province d'Isernia en Italie. L'arbre est offert par la région italienne de Basilicate. Il mesure 24 mètres de hauteur. Comme tous les ans, il ornera la place Saint-Pierre au pied de la crèche en cours de construction. Il sera illuminé le 14 décembre prochain.
Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus. Et que nous, on est toujours.
Après 3 jours d'études et de débats, l'assemblée plénière du Conseil pontifical Justice et Paix s'est achevée ce mercredi à Rome. Réunis cette année autour du thème autorité politique et juridiction universelle, ses membres ont réfléchi à l'idée d'une autorité supranationale afin de proposer des solutions pour sortir de la crise en se basant sur le document publié par ce dicaster au mois d'octobre. En recevant les participants de la plénière lundi, le pape avait déjà souligné qu'il était impensable d'imaginer un super pouvoir concentré dans les mains de quelques-uns et qui dominerait tous les peuples et exploiterait les plus faibles. Parmi les membres du Conseil pontifical, Michel Candessus, qui fut directeur général du FMI de 1987 à 2000. Au micro d'Olivier Bonnel, il revient sur ce concept d'autorité mondiale et sur le rôle controversé du FMI dans la crise.
Le bienheureux Jean XXIII avait mentionné dans l'encyclique Pacem in Terris, l'idée et la nécessité d'une autorité publique à compétence universelle. Il y a là quatre mots qui pèsent lourd, mais qui répondent à une réalité tout à fait évidente. C'est que depuis cette époque, le monde est dans ce processus de mondialisation, qui s'est accéléré récemment, comme vous le savez. Le monde devient un. Eh bien, comme dans toute société humaine, là où il y a une unité humaine, il faut qu'il y ait aussi un pouvoir de quelque manière organisateur. C'était ça la grande intuition de Jean XXIII, qui demandait que, devant ce qui était à l'époque le blocage des Nations Unies avec la division Est-Ouest en particulier, il demandait qu'on dépasse tout cela et qu'il y ait une organisation qui véritablement saisisse cette mondialisation dans sa mouvance et la régule en quelque sorte en s'inspirant autant que faire se peut de ce qu'est la doctrine sociale de l'Église en ce qui concerne tous les aspects de la vie humaine et en particulier la recherche d'un bien commun. Un bien commun qui, lorsque le monde se fait un, prend une forme globale. Si vous lisez le document qui a été publié au mois d'octobre, et ce qui est la base de notre réflexion, vous voyez que ce document propose, en suivant d'ailleurs les orientations définies par Caritas in Veritate, propose une approche gradualiste, réformiste, c'est-à-dire on ne fait pas une table rase, on ne détruit pas les instruments existants sous prétexte qu'elles n'ont pas fait le travail ou suffisamment. On part de ce qu'il y a et on essaye d'améliorer. Et on voit ainsi s'esquisser une construction à deux étages, en quelque sorte, un nouvel étage d'organisation, un étage supérieur d'organisation, correspondant au principe de subsidiarité, de recherche du bon commun, de recherche du développement humain intégral, etc., qui sont définis dans Caritas in Veritate. Et au-dessous de cet élément supérieur, les institutions telles que nous les connaissons, Formalité internationale, Banque mondiale, OMC, Organisation internationale du travail, se réformant de telle sorte qu'elles soient mieux alignées sur les principes de cette autorité supérieure dont je viens de parler.
Comment vous expliquez la mauvaise image que le FMI et les institutions internationales ont auprès de très nombreux citoyens, et notamment citoyens européens? On le sait, on voit la Grèce, on voit l'Irlande, on voit le Portugal, on voit tous les pays en crise. Comment restaurer cette confiance, justement, auprès des citoyens européens qui sont fortement touchés par cette crise?
Alors écoutez, d'abord, une première chose. Peut-être qu'ils ont une mauvaise image. Peut-être avez-vous le sentiment qu'il n'y a pas une grande confiance. Mais c'est tout de même toujours à cette institution-là qu'on s'adresse quand il s'agit de faire face à un problème. Le problème n'est pas tellement dans le fait qu'ils n'inspirent pas confiance. Le problème est surtout dans le fait qu'on ne leur donne pas toujours les moyens dont ils ont besoin pour faire face à une situation donnée. Et surtout que trop longtemps, trop souvent au fil de l'histoire des 50 dernières années, ces institutions ont été vues comme le bouc émissaire universel pour ce qui n'allait pas. En tant que directeur général du Fonds monétaire international, j'ai eu à faire face à je ne sais combien de crises. Et trop souvent, je dois dire, les gouvernements ont eu tendance à dire « Ben voilà, nous devons prendre des mesures d'extrême rigueur parce que nous sommes au bord de l'abîme, mais parce que le Fonds monétaire nous les impose. »
C'est ce qui se dit encore aujourd'hui.
Ils le disent encore. Mais en fait, ce n'est pas le médecin qui prescrit une opération chirurgicale, c'est tous les abus, toutes les intempérances des gouvernements avant qui ont créé une situation de cataclysme et auquel il faut donc faire réponse par des moyens très très vigoureux.
Michel Candessus, est-ce qu'aujourd'hui, en 2012, on peut concilier être catholique et ultralibéral, si ce terme veut dire quelque chose?
Ce que je peux vous dire, c'est que, et je crois que vous évoquez ma propre carrière au Fonds monétaire international, puisque je ne me suis jamais caché d'être catholique, je vous renverrai à quelques centaines de discours que j'ai faits, où j'ai expliqué comment le Fonds monétaire international, contrairement à ce que l'on en dit, n'était pas une institution néolibérale, c'est-à-dire ne connaissant que la main invisible du marché. J'ai toujours dit que la bonne économie nationale et internationale ne peut pas fonctionner seulement avec une main. Il faut certes la main invisible du marché qui règle si bien beaucoup de problèmes, mais il lui faut aussi, lorsque le marché ne fonctionne pas, la main de l'État. Et enfin, il faut une troisième main, et peut-être même en faut-il deux à ce moment-là. Il faut la main de la solidarité. Le marché et l'État ne peuvent pas régler seuls les problèmes les plus graves, ceux de l'extrême pauvreté par exemple.
Michel Candessus, ex-directeur général du FMI, interrogé par Olivier Bonnet.
Justice, réveille-toi.
Le Sénat français a adopté dans la nuit de mardi à mercredi un projet de loi autorisant la recherche sur l'embryon et les cellules souches. Le texte qui a reçu l'appui du gouvernement prévoit de passer du régime actuel d'interdiction de la recherche sur l'embryon avec dérogation à une autorisation encadrée. La recherche sur les cellules souches avait été interdite lors de la révision de la loi sur la bioéthique en 2004. La proposition de loi initiée par des sénateurs de gauche et adoptée à une large majorité a divisé l'UMP et les centristes. 20 sénateurs du Parti conservateur ont voté pour, 59 contre, 16 se sont abstenus et 36 n'ont pas pris part au vote. Le texte doit maintenant être adopté à l'Assemblée nationale. Jean-Marie Lemenet, président de la Fondation Jérôme Lejeune, nous explique pourquoi le projet de loi est éthiquement inacceptable.
Parce que le droit français, comme beaucoup de droits du reste dans différents pays, protège l'être humain. Et protège l'être humain dès le commencement de sa vie, c'est le cas de la loi française. Et c'est pas parce qu'il y a des exceptions que ça remet en cause le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Or, nous avions eu des lois de bioéthique, il y a 3 lois de bioéthique en France, dont la dernière, qui n'ont jamais remis en cause le respect dû à l'être humain en phase embryonnaire. Donc, la recherche sur l'embryon, en principe, est interdite aujourd'hui. Mais il y a des exceptions. Alors, sur le plan moral, c'est tout à fait discutable. Il n'empêche que le système a une certaine cohérence. Ce que veulent faire aujourd'hui les socialistes en France, qui sont arrivés au pouvoir au mois de mai dernier, c'est renverser la vapeur, si je puis dire, et remplacer ce principe d'interdiction avec des dérogations par un principe d'autorisation avec des mesures d'encadrement, c'est-à-dire, un principe, remplacer l'interdiction par l'autorisation. En gros, c'est ça que ça veut dire. Or, nous nous élevons, bien sûr, contre cette vision des choses qui est, d'abord immorale, contraire au droit qui protège l'être humain. En fait, ça veut dire que la protection de l'être humain en phase embryonnaire ne sera plus qu'une dérogation au nouveau principe qui est l'autorisation de faire de la recherche sur l'embryon. C'est la première fois qu'on voit ça, quand même. Généralement, il peut y avoir des dérogations à des principes, mais remplacer le principe lui-même par une dérogation, ça n'a pas de sens. Donc, nous sommes absolument contre sur le plan éthique, bien sûr, et puis on nous vante beaucoup les mérites des cellules souches embryonnaires avec lesquelles on pourrait régénérer, etc. Nous sommes les premiers à trouver que la thérapie cellulaire, la recherche sur les cellules souches, c'est une perspective tout à fait intéressante. Mais il n'y a pas du tout besoin pour ça de cannibaliser l'embryon humain et de détruire des embryons humains. D'abord, des cellules souches, on en trouve partout dans le corps. Alors, elles sont moins performantes que les cellules embryonnaires, c'est une chose entendue. On en trouve dans le sang de cordon, elles sont assez performantes. Et puis surtout, et là on est en plein dans l'actualité, il n'a échappé à aucun auditeur que le prix Nobel de médecine a été remis à un savant japonais qui s'appelle Yamanaka, qui a découvert un moyen de contourner le problème éthique de la destruction des embryons pour récupérer des cellules souches. Il a dit, je vais prendre le problème à l'envers, je vais prendre des cellules adultes, des cellules de la peau par exemple, des cellules somatiques normales qui sont déjà différenciées, et je vais les rajeunir, je vais leur rendre toute leur mémoire. Car la caractéristique d'une cellule souche, c'est qu'elle a encore une capacité de tout faire, une capacité pluripotente ou multipotente. Elle peut se différencier en différents tissus. Alors que la cellule somatique, la cellule de peau par exemple, elle ne sait plus faire que de la peau, du muscle, de la muqueuse, du foie, du rein, etc. Vous créez une cellule souche chez un patient qui est atteint d'une pathologie que vous voulez traiter, vous voulez faire des essais de médicaments dessus, au lieu de détruire des embryons qui auraient peut-être cette pathologie, vous créez cette cellule souche chez un patient chez qui vous prélevez une cellule normale. C'est extrêmement facile et c'est beaucoup plus intéressant, c'est éthique, et c'est les ressources de cette découverte de Yamanaka sont absolument sans limite et sans problème éthique.
«
Mais l'adhésion à ce projet de loi ou son refus, ça dépend essentiellement d'une considération, c'est la conception qu'on peut avoir de l'embryon. Est-ce que c'est une personne humaine ou pas, etc. Tout dépend de ça. Et tant qu'on n'aura pas clarifié le statut de l'embryon, toutes les lois pourront passer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait plutôt travailler à la source et définir concrètement ce qu'est un embryon ?
Vous avez parfaitement raison de dire que tout dépend de la conception qu'on a de l'embryon. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de scientifiques dans le monde, je pense même qu'il n'en existe aucun, qui pense que l'embryon n'est pas un être humain. J'attends qu'un scientifique publie un article scientifique dans une grande revue scientifique en disant que l'embryon humain n'est pas un membre de l'espèce humaine, n'est pas un être humain. J'attends qu'il publie ça. Et le jour où effectivement un scientifique fera cette publication, je me convertirai complètement à la recherche sur l'embryon. Mais ça n'existe pas. Alors on peut dire cet être humain en phase embryonnaire, il ne nous ressemble pas, il n'a pas de petits bras, il ne fait pas de sourire. Mais il n'y a pas, et ça je pense qu'il faut que les auditeurs s'en rendent compte, pour pas qu'ils soient complexés par rapport à des scientifiques dont ils pourraient entendre les propos, qui seraient des propos de nature à dire « oui mais enfin l'embryon, on ne sait pas très bien ce que c'est au début ». Non, il n'y a pas besoin de scientifiques pour savoir que l'être humain commence à la conception. Alors voilà. Et souvent on entend des scientifiques dire « je pense que l'embryon n'est un être humain qu'à partir du moment où il est accepté par sa famille, où il fait l'objet d'un projet parental », c'est même dans la loi française. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette définition qui définit l'être humain à partir du projet qu'on a sur lui ? Moi, si j'ai pas de projet parental sur mon voisin, sur l'immigré, sur le pauvre, si j'ai pas de projet sur lui, je peux le détruire. C'est ça que ça veut dire. Donc, la nature de l'être ne dépend pas du regard qu'on porte sur lui. Mais sa nature ne change pas en fonction du regard que vous portez sur lui, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la loi de définir l'embryon humain. L'embryon humain, il préexiste à la loi. Et l'être humain préexiste à la loi. Et la loi, elle est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi.
Jean-Marie Lemenet, président de la Fondation Jérôme Lejeune, au micro de Manuela Affigy. L'église grecque-orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient pleure la mort de son patriarche. Ignace IV Azim est décédé ce mercredi à Beyrouth. Âgé de 91 ans et résident à Damas, il avait été transporté la veille aux soins intensifs de l'hôpital Saint-Georges à Achrafieh suite à une attaque cérébrale. Le patriarche a suivi des études de littérature au Liban. Il a été l'un des fondateurs du mouvement de la jeunesse orthodoxe en 1942. En juillet 1979, Monseigneur Azim a été élu patriarche. Ces dernières années, il avait à plusieurs reprises exprimé des craintes sur l'avenir des chrétiens de Syrie. En mars dernier, il avait dénoncé la campagne médiatique hostile au pays. Ignace IV Azim estimait qu'elle encourageait la propagation du confessionnalisme et les idées sécessionnistes. L'avenir des chrétiens dans le monde arabe, un sujet au centre de l'Assemblée des patriarches et évêques catholiques au Moyen-Orient. Ils étaient réunis du 3 au 5 décembre à Harissa, près de Beyrouth. Les patriarches Bécharara et Grégoire III Laham, Ignace de Younan, des représentants des patriarches coptes, chaldéens et latins, ainsi que le nonce apostolique Mgr Gabriele Caccia, participaient à cette rencontre. Le compte-rendu de Bernard de Cotigny.
Les travaux de l'Assemblée portent sur le suivi de l'exhortation apostolique Église du Moyen-Orient, remise par Benoît XVI lors de sa visite au Liban en septembre dernier. À l'ère des grands bouleversements régionaux et de l'arrivée au pouvoir des partis islamistes dans de nombreux pays de la région, le patriarche Bécharara a insisté en ouverture de l'Assemblée sur le droit et le devoir des chrétiens de participer à la vie nationale dans leurs différentes patries, de jouir d'une citoyenneté complète et de ne pas être traités comme des minorités. Le patriarche a rappelé les deux dangers qui menacent non seulement les chrétiens, mais les croyants de toutes les religions, le fondamentalisme religieux violent et la laïcité négative qui cherche à confiner la foi religieuse dans la sphère de la vie privée et domestique. Ces deux dangers peuvent aller jusqu'à l'extrémisme idéologique qui interdit aux personnes d'exprimer publiquement leur foi religieuse.
Bernard de Cotigny. Et puis, un épisode tragique s'est déroulé en marge de cette rencontre. Le chauffeur de la voiture qui venait de conduire les évêques syriens en partance pour Harissa a été tué de deux balles sur le chemin du retour de l'aéroport d'Alep. Le chauffeur gréco-catholique Youssef Karm était marié et père de trois enfants. Il conduisait les autobus d'une école arménienne catholique d'Alep. Il utilisait souvent sa voiture personnelle pour transporter les évêques et les prêtres de la métropole syrienne. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine de Radio Vatican.